Nous passons à la lecture maintenant des versets qui vont soutenir la prédication. Les versets principaux se trouvent dans la première épître de Jean, au chapitre 3, les versets 11 à 18. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn, qui était du malin, et qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde a de la haine pour vous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier a la vie éternelle demeurant en lui. À ceci, nous avons connu l'amour. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. Et le deuxième texte qui fait écho à ce texte se trouve dans le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, versets 1 à 12. L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, « J'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle accoucha encore de son frère, Abel. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta les premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel, et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Alors Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et tremblant sur la terre. »
Lorsque nos muscles ne sont pas utilisés, ils s'atrophient et deviennent en fait inutiles. Ma prière, c'est que ce matin, le Saint-Esprit stimule nos muscles spirituels afin que nous puissions saisir ce que la parole de Dieu nous dit. Lors de la dernière prédication de la série sur 1 Jean, nous sommes donc dans cette série sur la première épître de Jean qui a été écrite dans le but de développer l'assurance du salut. Eh bien, nous avions terminé en parlant des conséquences d'être, ou les conséquences, ouais, dans la vie, d'être un enfant de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez des 4 conséquences d'être un enfant de Dieu? Je vais vous aider. Je vais nous aider. J'ai aussi besoin d'être aidé, évidemment. Premièrement, nous avions vu que l'enfant de Dieu se purifie. L'enfant de Dieu se purifie. Nous avons vu ensuite que l'enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. Il n'y a pas ce désir continuel de vivre dans le péché. L'enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. Troisièmement, l'enfant de Dieu pratique la justice. Vous vous souvenez peut-être, l'oiseau chante et le chrétien pratique la justice. Et quatrième élément, l'enfant de Dieu aime son frère. L'enfant de Dieu aime son frère. C'est une conséquence d'être enfant de Dieu. Et je vous avais dit que nous allions développer ce quatrième point de la prédication suivante. Ben, nous y voici. C'est la prédication suivante. Voilà pourquoi j'ai intitulé la prédication « L'enfant de Dieu aime son frère ». C'est vrai que je me demandais si je n'allais pas lui donner un autre titre. Par exemple, « L'amour se donne alors que la haine prend la vie ». Ou encore « L'amour construit alors que la haine détruit ». Vous l'aurez compris, le texte du jour développe ce que signifie l'amour par un grand contraste. Et nous verrons que des exemples pratiques sont donnés dans le texte lui-même. Alors je donne les grands points de ce jour, hein, notre menu si vous voulez. Premièrement, nous allons voir que le message qui nous est donné, c'est simplement « aimons-nous les uns les autres ». Le message, c'est « aimons-nous les uns les autres ». Ça sera notre premier point. Le deuxième point, nous parlerons de l'opposé de l'amour. Et nous terminerons par un troisième point qui parle de l'amour à vivre, tel que le texte nous le propose. Donc entrons dans ce premier point, le message « aimons-nous les uns les autres ». Si quelqu'un vous dit que l'essentiel de la vie chrétienne, c'est de vivre une expérience avec Dieu, de vous sentir proche de lui, d'avoir une connaissance particulière de Dieu, si cette personne ne marche pas dans la vérité concernant, ou ne cherche pas la vérité concernant Jésus, Dieu homme, si elle ne cherche pas à obéir aux commandements de Dieu, et que l'amour pour les frères dans la foi n'est pas aussi importante que son expérience avec Dieu, vous êtes face à une personne qui ne met pas en pratique 1 Jean. Parce que dans 1 Jean, nous avons donc ces trois tests. Le test moral, qui est donc l'obéissance aux commandements de Dieu. Le test doctrinal, la vérité révélée à laquelle on croit. Et le test social, l'amour en pratique qui détermine si je suis un enfant de Dieu. Et ce n'est pas une expérience mystique qui détermine si je suis un enfant de Dieu. Alors Jean continue ici particulièrement à souligner l'importance de l'amour. Et aujourd'hui, il nous donne un message. Ce message est au cœur de tout ce qu'on va voir ce matin. Verset 11. Je vous invite à garder vos Bibles ouvertes dans 1 Jean 3. Nous y reviendrons fréquemment, évidemment. Verset 11. « Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. » Voici le message. Vous êtes prêts? Voici le message. « Aimons-nous les uns les autres. » Aimons-nous les uns les autres. Il n'est pas question d'expérience mystique particulière avec Dieu dans ce message. Il n'est pas question d'une expérience mystique particulière avec Dieu. Il est question d'une marque qui caractérise le chrétien. Il est question d'une marque qui caractérise le chrétien et que nous trouvons dans tout le Nouveau Testament. C'est l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est la marque du chrétien. J'aimerais vous donner quelques textes pour vous montrer que le Nouveau Testament dans son ensemble en parle. Ce n'est pas seulement Jean qui en parle. Par exemple, Romains 5, verset 5 nous dit ceci, je vous le lis. « Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » L'amour de Dieu est répandu dans le cœur du chrétien selon la Bible. Romains 5, 5 le dit. Ou encore Galates 5, 22. Oh, ça, vous connaissez. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. Il est quelque part prééminent dans ce fameux fruit que tous les chrétiens vont porter de manière plus ou moins abondante. Et un troisième et avant-dernier texte pour vous montrer toute l'étendue, dans Thessaloniciens cette fois-ci, 1 Thessaloniciens 4, verset 9. Voici ce que Paul, inspiré par l'Esprit, dit à cette église. « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. » L'amour fraternel ou l'amour réciproque fait partie de ce qui est reçu de Dieu. Il n'y a pas besoin de le remettre en question. Paul dit même, j'ai pas besoin de vous en parler. Pas qu'il n'y a pas besoin d'enseignement, mais c'est que ça fait partie de la vie chrétienne. Et dernier texte que je trouve fabuleux aussi, c'est Pierre cette fois-ci, puisqu'on a Paul, Pierre, Jean, enfin c'est le Saint-Esprit en fait, mais par ces différentes personnes, dans 1 Pierre 1, 22, qui dit ceci. « Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment de tout cœur. » 1 Pierre 1, 22. Donc purifié en vue d'un amour fraternel sincère. Donc selon 1 Pierre 1, 22, nous sommes purifiés par Christ pour aimer nos frères et sœurs en Christ. Voilà. Nous sommes purifiés par Christ pour aimer nos frères et sœurs en Christ. Jésus, lorsqu'il était avec ses disciples, leur avait parlé de la marque qui les caractériserait, car ils devaient en fait s'exercer, mettre ses muscles en action, si vous voulez, pour se différencier des autres, pour manifester qu'ils étaient les disciples de Jésus. On commence à l'avoir aussi un petit peu en tête, ce texte de Jean 13, versets 34 et 35. Quand Jésus parle à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau. » On avait déjà parlé ensemble, un nouveau ancien, qu'est-ce que ça signifiait? Je n'y reviens pas maintenant. Mais il a dit, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est le message qui a été donné dès le commencement. Il n'y a pas besoin de chercher un autre message, une nouvelle révélation. On cherche quelque chose de moderne, de vieux. Il n'y a pas du vieux ou du moderne. C'est le message, c'est la vérité que Christ a donnée. Une vérité d'ailleurs qui est publique, qui n'est pas cachée et qui est appelée à se voir. C'est pas, Dieu ne nous enseigne pas un amour privé, personnel, que personne ne peut voir. On veut mettre la religion dans le côté privé où personne ne voit rien. Non. Nous avons donc compris par ce premier point que le message c'est, il est simple, aimons-nous les uns les autres. Ça, j'aimerais que ça résonne dans nos cœurs, en fait, dans nos têtes, toute la semaine qui vient. Aimons-nous les uns les autres. Ça devrait faire partie de nos prières, de nos désirs, de nos discussions, de nos relations. J'aime, et on peut dire j'aime et je veux aimer. J'aime l'église locale dans laquelle Dieu m'a placé et je veux l'aimer davantage. J'aime ceux qui font partie de l'église locale où Dieu m'a placé et je veux les aimer davantage. J'aime ceux qui font partie du corps de Christ et je veux les aimer davantage. Vous avez déjà dit que vous aimiez l'église? Vous avez déjà dit que vous aimiez une personne qui est ici dans l'église? Parce qu'elle est votre frère et votre sœur? Pourquoi pas? Mais que veut dire aimer? Et Jean va nous permettre d'approfondir cette connaissance de l'amour, d'abord en parlant du manque d'amour, jusqu'à son absence totale. Ce sera notre deuxième point. Et ensuite, il nous montrera un modèle qui nous permettra de bien comprendre ce qu'est l'amour. Dans le deuxième point de cette prédication, nous allons donc maintenant réfléchir à l'opposé de l'amour. L'opposé de l'amour. Et pour nous expliquer cela, le Saint-Esprit, par Jean, nous parle de la haine. La haine. En nous donnant un exemple, un avertissement et une affirmation. Trois choses que nous trouvons dans ce texte. L'exemple, c'est la haine de Caïn. Voilà l'exemple qu'il nous montre. On va en parler. Ensuite, il donnera un avertissement. C'est la haine du monde, qui a un lien d'ailleurs avec Caïn. Et une affirmation, c'est que la haine, c'est du meurtre. Donc commençons par l'exemple, la haine de Caïn. Alors relisez avec moi le verset 12 de 1 Jean 3. Ne faisons pas comme Caïn, qui était du malin, et qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Nous avons lu ensemble le texte dans Genèse 4, les versets 1 à 12 tout à l'heure, qui nous a permis de remettre en mémoire l'histoire de laquelle Jean a retiré ceci. Il a fait référence en fait à une histoire, à un récit historique qui s'est réellement passé. Le sacrifice de Caïn n'est pas accepté. Et Hébreux 11, 4 nous permet de comprendre que Abel a offert un sacrifice par la foi. C'est dans Hébreux 11:4. La foi en Dieu est toujours basée, en fait, sur des paroles que Dieu a prononcées. On ne met pas sa foi en rien. Quand on croit en Dieu, on croit en des paroles qu'il nous a dites, qu'il nous a révélées. Ce qui nous permet de comprendre que Dieu avait déjà donné des directives de comment devait être vécue l'offrande à Caïn et à Abel, et d'ailleurs à Adam et à Ève aussi. Donc sans parler même du type d'offrande, hein, est-ce que c'est des légumes de, ou bien est-ce que c'est de un agneau qu'il faut offrir, sans parler de ça, c'est dès le départ une question de cœur. Et Jean le souligne ici, les œuvres de Caïn sont mauvaises. Et le texte 1 Jean le dit ici, et le meurtre, qui est l'expression ultime de la haine, hein, le meurtre c'est l'expression ultime de la haine, n'est pas la première œuvre mauvaise de Caïn. C'en est quelque part un sommet, le sommet du mal qu'il a commencé à gravir bien avant. Si Caïn avait eu une bonne disposition envers Dieu, lorsqu'il a découvert que son sacrifice n'était pas accepté, il aurait demandé à Dieu de le guider. Il aurait écouté la voix de Dieu, si sa disposition était de faire ce que Dieu voulait, s'il avait cette foi en ce Dieu qui, lui, souverainement, nous dit comment vivre l'adoration, les offrandes. Si Caïn s'était approché de Dieu avec foi, il aurait accepté que les voies de Dieu sont parfois différentes de celles que nous pensons, parce que c'est lui le souverain. Mais Caïn était déjà enfoncé dans le mal. Il ne voulait pas écouter les avertissements de Dieu. Et la présence d'Abel lui rappelait constamment ce péché. Il avait donc le choix, se repentir ou éliminer celui qui rappelait son péché. Mais oui, puisqu'il le rappelle tout le temps, donc deux choix, se repentir, et il est délivré de ce péché, ou éliminer celui qui le rappelle. Bon, il y a peut-être d'autres qui viendront, mais enfin. Eh bien, Caïn, malheureusement, a choisi, on pourrait dire, de se moquer de Dieu. Et guidé par la haine, il offre en quelque sorte son frère en sacrifice. Tu veux un sacrifice différent? Eh bien, voilà. Vous savez, le verbe pour tuer ici, Abel, qui est utilisé, c'est le même que le verbe qui est utilisé pour mettre à mort un sacrifice. C'est le même. Donc Caïn avait le choix, se repentir ou éliminer celui qui lui rappelait son péché. Caïn, malheureusement, a choisi de se moquer de Dieu. Guidé par la haine, on peut dire qu'il a offert, en quelque sorte, son frère en sacrifice. Puisque Dieu n'avait pas accepté son premier sacrifice qu'il avait apporté selon ses propres directives et non selon les directives de Dieu, selon sa religion personnelle, eh bien il continue d'agir selon ses propres règles. En fait, Caïn veut imposer à Dieu ce qu'il veut lui donner. Et par la même occasion, il élimine celui qui rappelle sa rébellion. Caïn, c'est le prototype du monde. Ce monde défini dans 1 Jean 2,16, duquel vient la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et donc après cet exemple que Jean donne ici, voici donc un avertissement, la haine du monde au verset 13. Hein. Ça suit directement, ne vous étonnez pas frère, si le monde a de la haine pour vous. Si Caïn était dérangé par la conduite de son frère qui était juste et l'a assassiné, pourquoi le monde que Caïn représente n'aurait-il pas de la haine pour celui qui est juste par Jésus-Christ? Pourquoi n'aurait-il pas de la haine? Vous savez, c'est une grâce. Lorsque ceux qui sont autour de nous, sachant que nous sommes justifiés par Christ, ne nous manifestent pas de l'hostilité. C'est une grâce, mais une grâce pour partager l'évangile, pas pour se cacher. Car Jésus avait clairement dit à ses disciples dans Jean 15, vous vous souvenez peut-être, Jean 15, les versets 18 à 25, pour ceux qui veulent noter, je vous le lis. Jésus dit cela à ses disciples. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Suite verset 23. Celui qui a de la haine pour moi a aussi de la haine pour mon père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Maintenant ils les ont vues, et ils ont haï, et moi et mon père. Mais que cette parole écrite dans leur loi soit accomplie, ils m'ont haï sans cause. Vous savez, nous ne devons jamais chercher la haine. Il ne faut pas chercher la haine des autres. Jamais. Nous ne devons pas chercher la haine, ni la susciter. Mais nous ne devrions pas être surpris face à cette haine. Nous ne devons pas jamais la chercher, ni la susciter. Mais nous ne devrions pas être surpris si elle est là. Le juste, en fait, place le monde devant un choix de se repentir ou d'éliminer celui qui rappelle son péché. Si quelqu'un est repris dans sa conscience et ne veut pas se repentir, nous ne devons pas être surpris de sa haine, de son désir de nous écarter. La haine, le Saint-Esprit par Jean va maintenant la définir en posant une affirmation qui nous va nous pousser, et ça c'est mon but et mon désir ce matin pour ce sujet de la haine, qui va nous pousser à chercher à éviter la haine à tout prix dans nos vies, pour nous-mêmes. Donc c'est la troisième chose, une affirmation. On a vu l'exemple, la haine de Caïn, un avertissement, la haine du monde, et maintenant une affirmation, la haine du meurtrier. Verset 14, deuxième partie. Celui qui n'aime pas demeure dans l'amour. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. On pourrait dire que le meurtre, comme dit un commentateur, est la haine en action. Et la haine est le meurtre à l'état de sentiment. Ou encore, le meurtre est l'ultime acte de haine et démontre l'absence d'amour à l'extrême. Le meurtre, c'est l'ultime acte de haine et démontre l'absence d'amour à l'extrême. La haine pousse à détruire, alors que l'amour pousse à construire. Et un fait intéressant, en recherchant un petit peu ici dans ce texte, eh bien, le terme meurtrier qui est utilisé dans ce verset 15 n'apparaît qu'une seule autre fois dans tout le Nouveau Testament, dans Jean 8, 44. Je pense que ce n'est pas pour rien. Il y a un lien. Voici ce qu'il est dit dans Jean 8, 44. C'est Jésus qui parle aux pharisiens. « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il préfère le mensonge, et ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. » Le meurtrier a pour père spirituel le diable. Caïn est un meurtrier et un menteur. On a les deux éléments d'ailleurs avec Caïn. Souvenez, hein, il a tué son frère, il est meurtrier. Puis quand Dieu lui demande où il est, il dit « je sais pas ». Caïn a Satan comme père spirituel. Vous vous souvenez, la dernière fois, le verset 10, qui est juste avant le verset 11 qu'on a lu aujourd'hui. Aujourd'hui, on lit de 11 à 18. Mais dans le verset 10, il était parlé des enfants de Dieu et des enfants du diable. Cela signifie que celui qui cultive la haine dans son cœur envers son frère est un meurtrier selon Dieu. Il n'a donc pas la vie éternelle demeurant en lui. Il faut être nettoyé du meurtre par la repentance et la foi pour que la vie éternelle demeure. Parfois on entend ceci, peut-être vous avez déjà entendu ça. Mais j'ai jamais tué personne. J'ai jamais tué personne. Est-ce que celui qui dit cela n'a jamais eu le désir d'éliminer quelqu'un? S'il n'y avait aucune conséquence à cet acte d'éliminer quelqu'un? Ou n'a-t-il jamais eu une mauvaise pensée face à une personne, ou même une parole mauvaise face à cette personne? Vous savez, Jésus définit le meurtre devant Dieu. Vous connaissez ce texte dans Matthieu, on va le lire, Matthieu 5, 21 et 22, où il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. » Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Et Jésus, maintenant, va préciser. Il ne va pas annuler ce commandement. Il va permettre de le comprendre. dans sa profondeur. Et il dit, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère « Raca » sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira « Insensé » sera passible de la géhenne et du feu. C'est ça le meurtre. C'est déjà dans le cœur. Et un chrétien peut malheureusement, c'est vrai, encore avoir des moments d'irritation, de rejet de l'autre. Mais il ne le vivra pas bien. C'est pas possible. Sinon, vous n'êtes pas chrétien. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal pour lui. Un chrétien ne cultivera pas cela dans son cœur. Sinon, il va, on pourrait dire, amener des courbatures, des crampes, des blocages de muscles dans son amour pour les frères et sœurs. Vous avez déjà eu des courbatures? C'est plus dur à marcher. Eh bien, les courbatures de l'amour pour les frères et sœurs, c'est plus dur à aimer. Un chrétien qui cultive l'animosité se bloque lui-même et bloque les autres. Un chrétien qui cultive l'animosité se bloque lui-même et bloque les autres. Donc ce que j'aimerais vous dire maintenant, je vais le dire assez fort. Donc je vous prépare. Fuyez la haine! Fuyez la haine et tout ce qui peut vous y conduire. Exercez les muscles de l'amour fraternel. Cet amour que Jean justement décrit dans la suite du texte et je me fais maintenant un plaisir de regarder avec vous. La haine, on n'a pas plaisir à voir. Mais parfois, on doit le voir pour s'en écarter, pour fuir, pour voir qu'est-ce qu'on doit fuir. Nous allons maintenant arriver à ce troisième point, l'amour à vivre. Il commence par donner une affirmation. C'est le verset 14a. C'est un indicateur. Le verset 14a est un indicateur, regardez. Nous savons, voilà, c'est-à-dire c'est un indicateur. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. C'est un indicateur. Aimer ses frères et sœurs dans la foi est un indicateur d'un changement de cœur effectué par Dieu. C'est un indicateur. Aimer ses frères et sœurs de la foi, c'est un indicateur du changement de cœur que Dieu a effectué. On a vu avant un Romains 5:5, un Thessaloniciens 4:9, tous ces passages qui le démontrent. Ce n'est ni naturel, ni normal pour une personne d'aimer les frères qu'il n'a pas choisis. Puisque c'est Dieu qui amène les personnes à la foi et qui construit son Église. On n'a pas choisi les personnes qui sont autour de nous ici ce matin. Et ce n'est pas naturel de s'aimer les uns les autres ici, présents ce matin. Mais cet amour pour les chrétiens, pour les frères et sœurs, chaque chrétien le reçoit et chaque chrétien est appelé à le développer. Comme nous recevons des jambes, des mains, des bras, mais que si nous ne les utilisons jamais, on a vu, les muscles s'atrophient. Et même s'ils sont encore là, les mains, les bras, physiquement, ils sont là, mais sans muscles, ou bien si peu, ils sont quasiment inutilisables. Eh bien, que l'amour que Dieu nous a donné soit exercé pour que les muscles soient sains. Il faut donc muscler son amour en l'exerçant. Vous allez peut-être me dire, oui, mais c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Eh bien, passons au verset 16. Vous connaissez Jean 3, 16, ok? Mais ici, c'est 1 Jean 3,16 qui va encore, quelque part, développer plus encore ce qu'est l'amour. Relisez avec moi, verset 16. « À ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. » Il a donné sa vie pour nous. Bon, ça continue. Hein. « Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Si qu'un a pris la vie de son frère, Jésus-Christ est venu donner sa vie pour ses frères. Hein, si qu'un a pris la vie de son frère, Jésus lui est venu donner sa vie pour les frères. Si qu'un est maudit et doit porter le châtiment de son propre péché, Jésus lui a pris la malédiction sur lui. Il a porté le châtiment des péchés de ses frères, lui qui ne le méritait pas. Si le sang d'Abel crie contre Caïn, le sang de Christ témoigne en faveur de ses frères. Vous savez, donner sa vie, c'est la plus grande preuve d'amour Ça vient pas de moi. C'est Jésus lui-même qui le dit. Jésus est Dieu. Ce qu'il dit est vrai. Donc on peut dire, la plus grande preuve d'amour, c'est de donner sa vie. Jean 15, verset 12 nous dit ceci, « Voici mon commandement. » Puis, c'est le même message qu'on a déjà eu tout à l'heure. « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Verset 13, « Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Voilà comment nous avons connu l'amour. C'est en voyant le don de la vie de Christ pour nous. J'aimerais vous raconter une petite histoire qui illustre cela, que j'ai trouvé marquante. Deux frères habitaient ensemble. L'aîné, un homme sérieux, travailleur, croyant, se préservait des souillures du monde. Le cadet était léger, dissipé, se livrait du matin au soir à une vie de débauche et de dissipation. L'aîné avait souvent, mais en vain, exhorté son frère avec larmes. Un soir, vers minuit, des coups violents retentissent à la porte d'entrée. Le chrétien se hâte d'ouvrir la porte et se trouve en présence de son frère, pâle, tremblant, les vêtements désordres et souillés de sang. « Sauve-moi, cache-moi, j'ai tué un homme, je suis poursuivi. » L'amour est ingénieux. Le frère aîné dépouille le coupable de ses vêtements accusateurs, s'en revêt lui-même et pousse son frère dans la chambre voisine. Peu de temps après, on entend des pas précipités des agents de police. « C'est toi qui as fait le coup, inutile de le questionner davantage !» reprend le second agent. « Regarde ses vêtements, ils répondent pour lui, lions-le et emmenons-le. » Jeté en prison, on procède dès le lendemain à son interrogatoire. Aux questions que l'on posait, le prévenu se bornait à répondre « Je dois payer ce crime de ma vie, et le plus tôt sera le mieux. » Le procès fut rapidement conduit, l'assassin présumé condamné à mort. Avant de mourir, le noble jeune homme demanda du papier et de l'encre. C'était une lettre à faire porter à son frère après l'exécution. La lettre contenait ces mots. Demain, revêtu de tes amis, de tes habits, je mourrai pour toi. Mais toi, en souvenir de moi, couvert de mes vêtements, tu devras vivre à l'avenir une vie saine et juste. Je meurs pour toi. Ces mots bouleversèrent jusqu'au fond de l'âme le cœur du coupable. Il fut vaincu. Il se précipita vers le juge qui, après avoir écouté ses aveux, déclara qu'il n'avait pas le droit de le faire emprisonner. Son frère était mort à sa place. La liberté lui était assurée. À partir de ce jour, le frère cadet vécut une vie nouvelle. On ne le reconnut plus, tant il était transformé. En vain, ses camarades de plaisir vinrent-ils le solliciter. Il répondait, « Avec les vêtements que je porte, je ne peux pas vous accompagner. » C'est faux, hein ? Être prêt à donner sa vie pour son frère dans la foi. Sommes-nous prêts à le faire ? Ou est-ce que... Non. Même m'engager un peu plus, donner du temps. On dit, mais je me fais exploiter si je donne du temps à l'Église. Mais celui qui le fait de plein cœur pour le Seigneur ne se sentira jamais exploité. Jamais. Mais celui qui le fait sans le cœur de Dieu se sentira toujours exploité des autres. Celui qui se donne parce qu'il sait que Dieu s'est donné pour lui n'a plus jamais ce genre de parole ni de pensée. Avec les vêtements de justice et de sainteté que Christ m'a donnés et que je porte, je peux m'engager pour le corps de celui qui m'a sauvé. Avec les vêtements de justice et de sainteté que Christ m'a donnés, et que je porte, je peux m'engager dans le corps de celui qui m'a sauvé. Et cela se manifeste de façon pratique. Les versets 17 et 18 en donnent un principe et une illustration. Un principe et une illustration, lisons ces deux versets. Si quelqu'un possède les biens du monde et qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Le principe est clair. Ne pas aimer en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. C'est bien beau de dire que nous aimons notre frère et que nous le laissons dans la misère alors qu'on a les moyens de l'aider. Oh, certains vont dire qu'il ne faut pas trop aider, sinon le frère dans le besoin ne travaillera plus et profiterait de la bonté des autres. J'ai entendu ça. Certains vont dire qu'il ne faut pas trop aider, sinon le frère dans le besoin ne travaillera plus et profitera de la bonté des autres. Mais avant de veiller aux péchés des autres qu'ils n'ont pas encore commis, veillons à ne pas pécher en aimant, non pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Avant de veiller aux péchés des autres qu'ils n'ont pas encore commis, veillons à ne pas pécher en aimant, en action en vérité, et pas en parole et avec la langue. Et l'action, c'est effectivement aider. Et en vérité, c'est peut-être en reprenant celui qui profite de l'aide donnée. Oui, bien sûr. Si le péché est là et effectif, bien sûr qu'il faut le reprendre. On ne va pas juste continuer à donner, c'est sûr. Mais reprenant celui que l'on a aidé. Jésus donne un exemple au verset 17 qui montre si l'amour demeure dans la vie d'un croyant. Comment est-ce que cet amour demeure? Eh bien, si quelqu'un a les moyens financiers, par exemple, d'aider son frère dans la foi qui est en difficulté et qu'il ne le fait pas, l'amour de Dieu ne demeure pas en lui. Ce n'est pas plus difficile. J'aimerais vous montrer les conditions qui sont données ici. Il y a des conditions, c'est vrai. Il y a des conditions qui sont données ici pour cette mise en pratique. Premièrement, il faut avoir les moyens. Si quelqu'un possède les biens du monde, ça signifie que celui qui n'a pas les moyens d'aider n'est pas jugé sur ce principe-là, évidemment. Si on n'a pas de moyens, on ne va pas être jugé sur ce principe. Ok, c'est un premier élément. Deuxième élément, il faut que ce soit un frère, qu'il voit son frère. Cela signifie que ce principe ne peut pas être appliqué à toutes les personnes que vous allez rencontrer. Ce critère n'interdit pas d'aider toutes les personnes que vous rencontrez. Mais cela n'indique pas si l'amour de Dieu est là ou non dans nos cœurs. C'est si notre frère est dans le besoin et que nous ne l'aidons pas en ayant les moyens que là, cela indique que l'amour de Dieu n'est pas dans notre cœur. Troisième élément, il faut connaître le besoin. Qu'il voit le besoin. Cela signifie que nous sommes aussi appelés, en fait, à chercher à connaître ce que les uns et les autres vivent autour de nous, afin de chercher une occasion à manifester notre amour. Et si un frère cache ses besoins, il ne pourra pas dire que l'amour de Dieu ne demeure pas en celui qui ne lui a rien donné et qui ne le savait pas. Voyez ? Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui sont dans le besoin doivent absolument étaler la situation qu'ils sont. Je suis plutôt en train de dire que ceux qui ont des moyens cherchent à connaître ce que les gens vivent pour avoir des occasions de manifester son amour. Et quatrième élément, bien sûr, il faut avoir assez d'amour pour partager avec son frère. C'est tout le thème de ce passage, cet amour à donner. Donc les conditions de l'aide, il y en a quatre. Il faut les moyens, le lien fraternel, la connaissance du besoin et l'amour. J'ai été très touché la semaine passée lors de cette présentation du voyage au Sri Lanka. On nous a présenté deux dames, je pense que vous vous souvenez ceux qui étaient là, qui vivaient dans un lieu un peu indescriptible. Ils avaient vraiment un lieu, une maison, il n'y avait même pas vraiment de toit, enfin vous vous souvenez. Elles n'avaient pas les biens du monde. Elles ne connaissaient pas les besoins de leurs hôtes. Et pourtant, la seule fleur de leur jardin, elles sont allées le cueillir pour la donner à ceux qui étaient venus par amour fraternel. Ça m'a marqué. Je trouve que c'est juste magnifique. On cherche une occasion de manifester son amour. C'est ça l'idée, en fait. L'amour de Dieu demeurait clairement en elles. On peut se poser des questions très pratiques. Avez-vous déjà donné, en plus de l'offrande à l'église, de l'argent à des frères ou des sœurs dans le besoin? Ça vous est déjà arrivé? Quelles étaient vos motivations? Prions que nos motivations soient justes, qu'on ne le fasse pas juste pour apaiser sa conscience ou pour s'attirer les honneurs. Non, dans une attitude de don, sans même attendre d'honneur en retour, mais cherchant à faire plaisir à notre Dieu. Autrement dit, en cherchant à glorifier Dieu. Cela peut se faire de manière très facile, de manière anonyme par exemple, ou en tous les cas, un élément très important, le don que l'on donne à quelqu'un ne devient pas un dû que l'autre nous doit, ou en fait une autorité que l'on prend sur l'autre personne. Non, ça c'est pas un don dans l'amour. Il n'y a pas de redevabilité de celui qui reçoit quand il est dans le besoin. En conclusion, j'aimerais simplement revenir au message de départ que nous avons entendu et qui devrait être clair. Aimons-nous les uns les autres. C'est ça qui doit résonner en fait. Tout le reste est lié à ça. Aimons-nous les uns les autres. L'exemple de la haine de Caïn, l'avertissement de la haine du monde et l'affirmation de la haine du meurtrier nous indique l'opposé de ce que nous sommes appelés à vivre. Évitons comme la peste, la haine et tout ce qui pourrait la faire pousser dans nos vies. Que ce soit l'amertume, la rage, la jalousie, la rancœur, les relations non réglées, l'irritation. Et comment est-ce qu'on peut faire le ménage? Eh bien par la repentance et la foi. Ne laissons aucune chance à la haine de vivre en nous. L'amour à vivre, dernier point qu'on a vu, nous indique que nous sommes enfants de Dieu. C'est un indicateur. Nous connaissons l'amour par l'œuvre de notre grand frère qui a pris notre place. Vêtus maintenant de ses habits, nous voulons aussi être prêts à nous donner et aider nos frères et sœurs selon les moyens que Dieu nous donne. Aimons-nous les uns les autres. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, j'aimerais te louer, te remercier, parce que si tu parles d'amour, ce n'est pas un concept vague. C'est une réalité que tu vis et que tu manifestes envers nous par tant de manières et particulièrement par le don de Jésus-Christ. Et j'aimerais, Seigneur, tout premièrement te prier que nous puissions être remplis de cet amour-là, de ton amour. Et j'aimerais te remercier parce que tu nous dis dans ta parole que tu donnes cet amour à tes enfants. Nous voulons y puiser, Père, et ainsi aussi être des personnes qui aiment. Oh, nous ne pouvons que nous mettre à genoux et implorer ta grâce quand nous voyons, Seigneur, les fois où nous avons manqué d'aimer. Mais nous voulons aussi nous réjouir, parce que nous pouvons aussi voir dans nos vies que tu nous as donné l'opportunité d'aimer déjà bien des reprises. Nous voulons t'en glorifier et te dire merci, parce que par là tu nous encourages aussi. Tu nous encourages en voyant aussi l'amour des uns et des autres. Et j'aimerais, Seigneur, te prier que nous partions ce matin de cette étude de ce texte, non pas avec un fardeau, je dois aimer, mais avec une joie, j'ai été aimé, je suis aimé, et je peux aimer en retour. Dans le bon nom de Jésus-Christ, Amen.